Christ, pour que notre vie soit remplie de Christ, et j'apprendrai à le connaître. Comment voulez-vous que, en marchant en compagnie de celui qui s'est abaissé de cette manière-là, ayant en vue que devant lui qu'une chose, la gloire de Dieu, la vie du Seigneur Jésus se résume par cette expression du psaume 16, je me suis toujours proposé l'Éternel devant moi. Toujours. Eh bien, si nous réalisons la présence du Seigneur, nous restons dans l'humilité. Et qu'est-ce qu'il en résultera? Nos vies d'assemblée sont combien heureuses, combien paisibles, combien édifiantes, combien à la gloire de Dieu, à la droite. Parce que nous connaissons beaucoup de choses. C'est toutes ces vérités, au fond, nous les avons entendues depuis bien longtemps, nous les connaissons, ces vérités. Mais ce qui est important, ce qui est capital, c'est de les vivre et qu'elles aient une heureuse conséquence sur notre vie et individuelle et aussi sur notre vie collective.
Sur les deux Adam dont il vient d'être question, en effet, dans l'introduction à notre Bible si remarquable, l'auteur dit « Pour Dieu, il y a deux hommes, les deux Adam. » Et dans la première aux Corinthiens, au chapitre 15, « Le premier homme est tiré de la terre, le second homme est venu du ciel. L'un est terrestre, avec tout ce que cela comporte, et l'autre est céleste. » Mais, chose remarquable, il est appelé non pas le deuxième Adam, mais le dernier Adam. Le premier homme, le deuxième homme. Mais lorsqu'il s'agit d'Adam, le dernier Adam est l'homme définitif selon les conseils de Dieu, c'est le psaume 8. Et dans ce cas, nous lisons, le premier homme Adam est devenu une âme vivante. Et remarquons le choix de l'expression pour parler du dernier Adam, de l'homme définitif, de l'homme des conseils de Dieu, de celui qui est venu accomplir l'œuvre en vertu de laquelle le propos de Dieu est établi, est accompli pour l'éternité. Il est dit de lui, le dernier Adam, non pas devint, mais est le dernier Adam, un esprit vivifiant, n'a jamais cessé d'être ce qu'il est, c'est-à-dire cet esprit vivifiant, donc une personne divine. Car Jean nous dit dans l'Évangile au chapitre 5, verset 5, verset 21, « Comme le Père réveille les morts et les vivifie, de même aussi, de la même manière, il est un esprit vivifiant, de même que le Père, de même aussi, le Fils vivifie ce qu'il veut. » Premier Adam devint une âme vivante, le dernier Adam un esprit vivifiant, de même que le Père vivifie les morts, de la même manière, de même, sans aucune différence, sans aucune diminution quelconque, de même, aussi, le Fils vivifie ce qu'il veut. À Pierre, il dira, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ce que tu viens d'apprendre à l'égard de ma personne, c'est le Père qui t'a révélé cela. Mais, de la même manière, je vais te faire une révélation. Comme le Père t'a fait une révélation, je vais t'en faire une de la même manière, la parfaite égalité des personnes divines.
Le premier Adam était une figure de celui qui devait venir, trouvons-nous dans le chapitre 5 de la première des Romains. Figure devenue si imparfaite. Adam est tombé ensuite dans le péché. Mais, il en est un qui devait venir et qui est venu. Un homme. Encore une fois, il est devenu quelque chose qu'il n'était pas, tout en restant ce qu'il est, et de toute éternité. De sorte que on soulignait tout à l'heure l'expression dans les Colossiens, en lui la plénitude de la déité habite, non seulement habité, habite corporellement. Et c'est comme tel que celui dont il est dit qu'il s'est abaissé, il s'est anéanti, il s'est abaissé, c'est comme tel homme, fait homme, fait à la ressemblance des hommes, qui nous est dit qu'il a été haut élevé, que Dieu l'a haut élevé. Il s'est abaissé, c'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé. Et son nom a été placé au-dessus de tout nom, comme le nom du Seigneur. Au nom de Jésus, se ploiera tout genou des êtres célestes et terrestres et infernaux. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Les croyants, aujourd'hui, individuellement et ensemble, sont heureux de saluer ce nom, de se ployer, de ployer le genou devant lui, et de confesser qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
Une expression du psaume 69, dans la bouche du Seigneur souffrant et mourant, souligne le contraste total entre le premier et le dernier Adam. Fin du verset 4, « Ce que je n'avais pas ravi, je l'ai alors rendu. » Ce que je n'avais pas ravi. Ici, nous voyons le premier Adam ayant devant lui un objet à ravir, quelque chose qu'il ambitionnait, qu'il désirait, qu'il revendiquait. Et de quoi s'agit-il? Ce que je n'avais pas ravi. Qu'est-ce que le Seigneur n'avait pas ravi? La gloire de Dieu, sans doute. L'homme a ravi la gloire de Dieu en ce sens qu'il a publiquement contrevenu à ce que Dieu attendait de lui. Dieu l'avait placé sur la terre comme un gérant, comme un administrateur de tous les biens qui étaient mis à sa disposition et qu'il devait gérer comme un économe fidèle. Il était placé au-dessus de la création. Mais l'homme, par sa désobéissance, s'est séparé de Dieu, s'est soustrait à son devoir d'obéissance, et dès lors, il ravissait publiquement à Dieu sa gloire. Dieu qui était satisfait de sa création et qui pouvait s'en prévaloir devant l'univers des anges, la gloire de Dieu, il y était porté atteinte par le premier Adam. Christ va rendre à Dieu tout cela, comme homme. C'est pourquoi il prend cette forme d'homme tout en restant Dieu. Mais comme homme, il va restituer à Dieu sa gloire et plus que sa gloire. Il va accomplir les pensées de Dieu dans l'homme. Il n'avait pas, lui, ravi la gloire de Dieu. Mais pour la lui rendre, il faut qu'il suive le chemin de l'homme et qu'il s'abaisse toujours plus bas. Alors on pense à cette parole du Seigneur en Jean 17, « Je t'ai glorifié sur la terre. » Celui qui n'a cessé de revendiquer, de rechercher la gloire de Dieu, « Je t'ai glorifié sur la terre, c'est pourquoi glorifie-moi, toi Père. » Maintenant Dieu va glorifier cet homme qui l'a glorifié, va montrer que là, sa gloire a été parfaitement revendiquée, justifiée. Dieu va répondre à ce qu'a fait Christ en lui donnant cette place suprême, ce nom au-dessus de tout nom, cette dignité
universel.
Paragraphe du chapitre 52 d'Ésaïe, l'ordre de choses est renversé avec ce que nous avons ici dans l'épître aux Philippiens. Dans l'épître aux Philippiens, il s'est abaissé, il s'est anéanti jusqu'à la mort et à la mort de la croix, et puis Dieu l'a haut élevé. Dans la fin du chapitre 52 d'Ésaïe, l'ordre est renversé. Au verset 13, il est dit, « Voici mon serviteur agira sagement. Il sera exalté, élevé et placé très haut. » Et puis nous avons son humiliation. « Comme beaucoup ont été stupéfaits en te voyant, tellement son visage était d'épais, plus que celui d'aucun homme, et sa forme, plus que celle d'aucun fils d'homme. Ainsi, de nouveau, nous avons son exaltation. Il fera tressaillir d'étonnement beaucoup de nations, et des rois fermeront leur bouche en le voyant, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté et ils considéreront ce qu'ils n'avaient pas entendu. » Dans le chapitre 14 du prophète Zacharie, il y a là une expression, le Seigneur dit par l'Esprit éternel, « L'homme m'a acquis dès ma jeunesse. » Il semble là que c'est son amour à lui qui l'a mis dans la position de l'homme. Cet amour l'a fait approcher de l'homme. Il a été comme attiré, acquis par les besoins de cette humanité perdue. Nous voyons à travers ces passages toutes les gloires merveilleuses de celui qui est haut élevé. Et si maintenant nous ne voyons pas que toute chose lui soit assujettie, nous avons la certitude que bientôt nous verrons que toute la gloire lui sera donnée et le moment approche. En attendant, il est rejeté, il est bafoué, il est honni de tous les hommes, on ne veut pas de lui, mais le jour vient où toute sa gloire sera manifestée dans l'univers tout entier.
Peut-être peut-on rapidement citer la réalisation future de ce que nous avons ici annoncé par l'apôtre, par l'Esprit de Dieu, dans l'Apocalypse, au chapitre 5 et au verset 13. Les créatures célestes, terrestres, des êtres célestes, terrestres et infernaux. Chapitre 5 de l'Apocalypse, verset 13. « Et j'entendis toutes les créatures qui sont dans le ciel, et sur la terre, et au-dessous de la terre, et sur la mer, et toutes les choses qui y sont, les êtres célestes, terrestres et infernaux, au-dessous de la terre. » Dans le psaume 63, nous avons « Ceux qui cherchent ma vie », verset 9, David nous parle de lui, mais place devant nous évidemment le Seigneur Jésus, mais ceux qui cherchent ma vie pour sa ruine entreront dans les parties inférieures de la terre. Et tous ceux-là devront rendre gloire au Seigneur demain, céleste, terrestre et infernaux. Tandis que dans l'Épître aux Colossiens, la réconciliation de toutes choses a pour objet les choses qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. mais celles qui sont au-dessous de la terre, image bien saisissante de tous ces êtres qui sont perdus pour l'éternité. Mais ils devront, quoi qu'il en soit, rendre ce témoignage, proclamer que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Les créatures qui sont au ciel et sur la terre et au-dessous de la terre.
Nous pourrions chanter au cantique 51.
Il est Seigneur. C'est ce qui est présenté comme l'élément de son élévation. C'est cette position de Seigneur. Celui qui domine, qui est au-dessus de tout, le Seigneur. Et il y a donc cette association du nom de Jésus. Le nom de son humilité, son abaissement, qui lui est redonné comme un nom de gloire, avec cette dignité de Seigneur. Il est Seigneur. Et nous aimons associer ces deux mots. C'est bien ainsi que nous l'appelons le plus souvent le Seigneur Jésus. Trouvons d'ailleurs bien des fois dans l'écriture l'expression le Seigneur Jésus. Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié, dit Pierre à la fin de sa première prédication. Sa seigneurie, c'est-à-dire son élévation au-dessus de tous. Et nous avons dans, je pense, que ce que nous avons au début de 1 Corinthiens 12, nul ne peut dire Seigneur Jésus, si ce n'est par l'Esprit Saint, correspond à cela. Dire Seigneur Jésus, ce n'est pas seulement associer ces deux mots sur nos lèvres, mais c'est précisément reconnaître cela, que Jésus est Seigneur.
À cet égard,
on peut lire dans l'Évangile selon Matthieu une expression, un récit extrêmement important. Seulement un mot dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre au chapitre 26e, au verset 22. Il s'agit des disciples. Et en étant fort attristés, ils commencèrent chacun d'eux à lui dire, « Seigneur, reconnaisse son autorité, Seigneur, est-ce moi qui pourrais faire cela ?» Mais remarquons, au verset 25, « Et Judas qui le livrait, répondant, dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Judas n'a pas dit « Seigneur » à Jésus.
Cette domination qui nous est présentée de la part de celui qui s'est abaissé et jusqu'à la mort de la croix, cette domination lui est due à trois titres. Parce que d'abord, il est fils, de Dieu, héritier, et puis il est le Rédempteur, et c'est cette pensée qui nous est présentée dans le chapitre 5 de l'Apocalypse. C'est par son œuvre de la rédemption qu'il a tout acheté et qu'il a tout rétabli. Et c'est en vertu de cette œuvre de la rédemption qu'il dominera d'une mer sur l'autre mer. Mais ici, cette domination, ce nom de Seigneur, est lié à son obéissance. Le mot important dans ce paragraphe, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Qu'est-ce qui a pu connaître la grandeur d'un tel abaissement? Qui a pu connaître la puissance d'un tel amour? Qu'est-ce qui a pu connaître ainsi l'obéissance absolue de celui qui était parfaitement homme, si ce n'est Dieu? Et alors, quand le temps sera venu, et déjà maintenant, Dieu lui a donné une place d'honneur, eh bien c'est pourquoi Dieu, c'est Dieu qui le fait. Dieu répond de cette manière-là à tout ce qu'il a glorifié dans ce second homme qui n'avait ainsi devant lui que la gloire de Dieu. Eh bien en cela, c'est pas comme victime expiatoire qu'il est notre modèle. Il est seul. Il ne nous est pas présenté ici comme la victime expiatoire. Il nous est présenté comme notre modèle dans le chemin de dépendance, d'obéissance, d'abaissement. C'est une illustration frappante. Et combien on doit être attentif de que de cette vérité que nous trouvons dans les proverbes, l'orgueil va devant la ruine. Et ça se m'assestera. Au contraire, l'abaissement va devant la gloire. Eh bien, ce qui est, elle doit exercer nos cœurs, parce qu'il faut, si ces vérités nous sont présentées, si Dieu nous les présente, c'est pour qu'elles aient quelques effets sur nos cœurs et nos consciences. C'est pour que nous nous demandions devant Dieu, mais où est-ce que j'en suis dans ce chemin d'obéissance? Dans quelle mesure je suis un tel modèle qui m'est proposé? Avec cette certitude que l'orgueil ira devant la ruine, Dieu saura briser l'orgueil, et qu'au contraire, l'abaissement ira devant la gloire. Combien nous avons besoin, non pas de recevoir, parce que c'est un danger, je pense que c'est un danger qui existe, de recevoir ces vérités par l'intelligence. C'est ça. Dieu veut notre cœur. Dieu veut toucher notre conscience. Dieu sait très bien que notre bonheur, il est justement dans ce chemin-là que le Seigneur Jésus nous trace. Le bonheur de tous les jours, c'est notre bonheur. Et aussi, c'est dans un tel chemin qu'on peut glorifier le Seigneur. Il faut toujours, quand nous sommes mis en présence de la parole de Dieu, qui est la lumière, la parole de Dieu, c'est l'œil de Dieu sur notre conscience et sur notre cœur. C'est l'œil de Dieu. Il faut toujours demander, eh bien, voyons, où j'en suis. Nous reconnaissons qu'il y a beaucoup dans notre vie, beaucoup d'échecs de ce côté-là. Eh bien, que Dieu nous accorde la grâce d'arrêter nos regards, nos pensées, nos cœurs sur la marche de ce parfait modèle qui est présenté devant nous.
en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. Et l'apôtre tire tout de suite, d'ailleurs, une conséquence. Ainsi donc, mes frères, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, il y a des questions de l'obéissance du Seigneur Jésus, ici-bas, et de sa gloire comme serviteur à toujours dans le ciel. Car il est là, la gloire de Dieu le Père. Eh bien, ainsi donc, nous voici revenus, si on peut parler ainsi, aux choses de la vie terrestre, quotidienne, mais où tout doit être marqué par ce caractère de l'obéissance. L'apôtre parle, à proprement parler, des Philippiens qui avaient obéi à la parole de Paul, à la parole de l'Évangile, à ce qu'il leur avait présenté, qui avaient reconnu en lui le serviteur de Dieu, mais qui, en obéissant à ce serviteur, obéissaient à celui-ci, à cet homme qui obéissait au vrai serviteur, à Christ lui-même. Ainsi donc, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, cela paraît bien petit, bien, et quand nous pensons à nous-mêmes, bien pauvres, et les Philippiens étaient comme nous, nous comprenons bien, mais ben, par rapport à ce qu'a été l'obéissance de Jésus ici-bas, mais la même expression et le même caractère d'humilité qui nous est demandé. Alors, de même que vous avez toujours obéi, il est heureux de le rendre en ce témoignage. Et nous sommes heureux de le lire. Alors, vous avez toujours obéi, et quand j'étais là, quand je vous parlais, quand je vous exhortais, mais comme vous l'avez fait en lorsque j'étais là, faites-le encore davantage maintenant que je suis absent, mais beaucoup plus maintenant en mon absence. Qu'est-ce que cela comporte? Eh bien, précisément, ce qui vient de nous être rappelé, à savoir que si vous avez reçu les paroles que de vive voix, étant avec vous, je vous ai présentées comme étant les paroles de Dieu, et que vous y avez obéi, montrez qu'elles ont eu un effet dans votre être intérieur, sur votre conscience, occupant votre esprit, votre cœur. Vous êtes appelé maintenant à rendre témoignage à l'obéissance dans mon absence. J'ai la confiance que je vous reverrai, je serai le moyen, par la grâce de Dieu, d'affermir votre foi. Mais souvenez-vous de ce qui vous a été présenté, et en rapport avec cela, dans l'obéissance dont le vrai modèle est Jésus, homme, ici-bas, eh bien, beaucoup plus maintenant, mon absence, vous travaillerez à votre propre salut, avec crainte et tremblement. Vivant ici-bas, comme des sauvés, mais sauvés en espérance, comme nous le trouvons dans le chapitre 8 des Romains, et en attendant l'issue fatale, l'issue finale de la présence de croyants ici-bas, c'est-à-dire l'enlèvement auprès du Seigneur, eh bien, montrez les effets de la parole dans vos âmes, et jour après jour, ajoutez quelque chose au travail qui vous est demandé, dont le modèle est Christ. Et c'est ainsi que vous travaillerez à réaliser par la foi dans vos âmes que vous êtes sauvés et que vous allez vers le salut complet avec le changement, la transformation glorieuse de vos corps.
Il ne faut pas qu'il y ait confusion. Il ne s'agit pas de travailler pour notre propre salut. Ça, le croyant n'a rien à y faire. Le salut est accompli. Mais nous avons à faire des progrès de jour en jour jusqu'au moment de la délivrance finale. C'est pourquoi il doit être vu chez un croyant des progrès. S'il n'y a pas de progrès, il est stationnaire ou il retourne en arrière. Les Hébreux avaient fait cela, ils étaient retournés aux ordonnances juives et par conséquent, il y avait eu du relâchement sous un enseignement corrompu par des hommes qui voulaient les ramener aux ordonnances de la loi. Pour nous, il n'est pas question de ces ordonnances de la loi, mais nous sommes en danger de nous laisser retenir par les choses de la terre qui se voient, et par conséquent, nous perdons de vue l'objet de notre foi qui est Christ. Pour faire des progrès, il faut avoir les yeux sur lui. Et alors, nous pouvons nous élancer après lui. Eh bien, c'est là un travail qui doit être accompli tous les jours par tous les croyants. Sinon, il y a du relâchement.
Nous remarquons bien que Paul n'écrit pas « de même que vous m'avez toujours obéi », bien sûr. Il vient d'être question d'obéissance, de reconnaître les droits du Seigneur, du moment où tout genou se ploiera devant lui. Eh bien, c'est comme pour dire, et c'est le lien entre les deux paragraphes, une seule chose glorifie Dieu, c'est l'obéissance à Christ. Le reconnaître comme Seigneur. Un jour, tous le feront. Tout genou se ploiera devant lui. Mais aujourd'hui, ce qui glorifie Dieu, c'est l'obéissance à Christ. Et vous avez toujours obéi. C'est en effet un témoignage qu'il aurait rendu. Vous avez toujours obéi. Eh bien, l'occasion est donnée dans le temps présent aux croyants de glorifier Dieu dans l'obéissance. Il n'y a pas d'autre gloire pour Dieu que celle-là rendue par l'homme. C'est sa position. L'obéissance au Seigneur, reconnaître les droits du Seigneur.
Et prenez garde à ne pas laisser vos propres pensées, votre propre volonté, et finalement les prétentions et l'orgueil de votre cœur naturel, se mêler à la volonté de Dieu à laquelle vous avez à obéir. De là la crainte et le tremblement. La crainte et le tremblement de laisser nos propres pensées, l'homme naturel, agir dans un domaine qui appartient à Dieu et où nous avons à obéir. Alors cela comporte d'abord écouter comme le Seigneur et serviteur fidèle avait l'oreille ouverte tous les matins, Ésaïe 50, pour écouter ce que Dieu plaçait devant lui, lui commandait. De même, nous avons à écouter la parole la prière sont là pour cela, car nous voyons combien tout ceci est lié, n'est-ce pas? Car ce n'est pas votre propre vouloir, et ce n'est pas votre propre activité qui ont quelque valeur, au contraire, cela risquerait de vous enorgueillir. C'est toujours la pensée de notre cœur naturel qui est incorrigible. Mais alors, le vouloir et le faire dépendent de Dieu. Obéir comme Christ a obéi, et comme Paul a obéi de telle manière qu'il pouvait dire « Soyez mes imitateurs ». C'est de laisser Dieu opérer par son esprit et par sa parole dans nos âmes. Dieu qui opère en vous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ce n'est pas tout d'être actif. Ce n'est pas tout même de vouloir et souhaiter de servir beaucoup le Seigneur. L'essentiel, c'est de faire ce qu'il veut et de le faire selon qu'il le demande et selon qu'il nous fournit les moyens de l'accomplir. Discerner sa volonté, comme nous le trouvons dans le premier chapitre des Colossiens. Et ensuite, agir selon cette volonté. Voilà ce que le vrai modèle nous enseigne.
Nous avons cette déclaration très importante au sujet de l'obéissance. Celui qui a mes commandements, c'est la parole. Nous avons là la vérité qui nous est présentée, là, la personne de Christ qui nous est présentée dans l'excellence ainsi de son obéissance. Bien, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Des fois, nous voudrions faire peut-être bien des choses pour montrer l'amour pour le Seigneur, qui est peut-être un amour vrai, peut-être sincère. Eh bien, la manifestation pour nous de l'amour que nous devons avoir pour Christ, c'est de l'obéir.
Le plus difficile est quelquefois de ne rien faire quand il ne veut pas que nous fassions quelque chose. C'est à lui qu'appartient le vouloir et le faire.
Que si je fais quelque chose que le Seigneur ne m'a pas commandé, qu'il n'a pas placé devant moi, eh bien ce qui sera, je n'aurai pas son approbation. Et ce qui est important pour nous, chacun, c'est d'avoir l'approbation du Maître. Cela va bien pour des fidèles esclaves. Combien donc il est important pour nous, parce que chacun a son service, combien il est important, et cela dépend d'un état spirituel. Cela dépend d'une vie commune avec le Seigneur, un contact constant avec lui, c'est pas... Combien il est important de discerner la volonté du Seigneur, la pensée du Seigneur.
Au chapitre 1er, au verset 6, il nous est dit « Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Ici, nous avons Dieu qui opère en vous, comme pour nous rappeler que le travail que Dieu opère en nous, quelqu'un l'a dit, est plus important que le travail que Dieu fait par nous. À peine l'apôtre a-t-il dit « Travaillez à votre propre salut » qu'il ajoute « Car c'est Dieu qui opère en vous. Ne l'oubliez pas. » Combien souvent l'activité extérieure se substitue au fait de laisser, comme nous l'exprimons dans un cantique, l'œuvre de la grâce salutaire de Dieu s'accomplir en nous.
Qui doivent nous amener à travailler avec crainte et tremblement. Deux forces qu'il ne faut pas oublier. D'abord, la puissance de l'adversaire. L'activité de Satan, qui plus que jamais se déploie dans des subtilités et des artifices que nous ne pourrons pas discerner si nous ne nous tenons pas près du maître. Là, dans le monde, dans tout ce qu'il y a dans le monde, plus que jamais, tout cela nous amène à travailler à notre propre vie avec crainte. Et puis une autre chose, c'est le moi, c'est la vieille nature qui est toujours prête à manifester ses droits. Et vous savez, la chair religieuse est la plus dangereuse. C'est la plus dangereuse. Quand nous voyons ainsi de tels ennemis qui est là devant notre main, comment ne marcherions-nous pas avec crainte et tremblement? Avec crainte. Et on a le sentiment que c'est ce que nous perdons, la crainte de Dieu. Cette crainte, cette sainte crainte. C'est un bonheur pour le croyant, la crainte. C'est un bonheur. Bienheureux celui qui craint continuellement, bienheureux. Parce qu'alors on a le sentiment que devant de tels déploiements de puissance, dangereux, étant sans force, on regarde à Dieu. Qui accomplit lui le vouloir et le faire, parce que tout est de Dieu.
Épître aux Romains, où nous avons un tableau merveilleux de ceux ou de celles qui ont travaillé, il nous est dit tout d'abord que saluer Marie, verset 6, qui a beaucoup travaillé pour vous. Et puis un peu plus loin, saluer Apelles, approuvé en Christ, saluer ceux de chez Aristobule, saluer Hérodio, mon parent, et puis saluer, verset 12, Persis, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé dans le Seigneur. Voilà donc un travail qui a l'approbation de l'apôtre et du Seigneur. Tous les travaux n'ont pas cette approbation. On peut faire de grandes choses. Et aujourd'hui, dans la chrétienté, on essaye de faire de grandes choses, de grandes apparences. Mais nous sommes dans le temps des petites choses. Et par conséquent, il s'agit de se contenter de faire ce qui est à notre portée si nous le faisons dans la pensée du Seigneur. C'est un travail qui aura sa récompense dans le ciel, si ce n'est sur la terre.
À propos du tremblement dont il est question ici, Ésaïe 66, verset 2. Une question d'abord du travail de Dieu, toutes ces choses, ma main les a faites. mais c'est à celui-ci que je regarderai, à l'affligé, et à celui qui a l'esprit contrit et qui tremble à ma parole.
Conclure par un appel de Josaphat dans 2 Chroniques 19. Non pas demeurer inactif par crainte de ne faire, une chose qui ne recevrait pas l'approbation du Seigneur, mais dans l'activité effectuée dans sa dépendance. Josaphat dit au verset 9 du chapitre 19 de 2 Chroniques, « Vous agirez ainsi dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et d'un cœur parfait. » Et au verset 7, il leur a dit, « Prenez garde en agissant, non pas ne rien faire, à moins que le Seigneur nous donne ce sentiment de ne rien faire, ce qui a été dit tout à l'heure, ce qui est tout à fait vrai, ce que Dieu fait en nous, disait un cher serviteur de Dieu, cela a été répété, ce que Dieu fait en nous est bien plus important que ce que nous pouvons faire pour lui. Mais vous prendrez garde en agissant, et si vous agissez, vous agirez ainsi dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et d'un cœur parfait.
Jésus.